Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, 15e partie, Babylone.
Notre Bible et revenir, comme nous en avons l'habitude maintenant depuis plusieurs mois, dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons pénétrer dans la méditation du chapitre 17. Nous y reviendrons à deux reprises. Alors voilà, si vous voulez ouvrir votre Bible, nous ferons, et je rappelle le principe, il s'agit d'une étude, il s'agit d'un commentaire appliqué, chapitre par chapitre, verset par verset, et nous allons donc nous livrer à cette méditation ce soir. Je voudrais donner un avertissement préliminaire à travers quelques versets avant de rentrer dans le sujet. Je voudrais vous rappeler cette parole de la Bible dans l'épître de Jean, quand il est dit ceci: « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et il est ajouté ceci: « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Et puis, il y a cette autre injonction qui nous prépare à la méditation du chapitre 17, dans 2 Corinthiens chapitre 6, pardon, où Dieu dit à son peuple « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Et plus loin, au chapitre 7 de toujours 2 Corinthiens, il nous est simplement réclamé ou demandé: « Ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Ces trois versets, ceci pour nous introduire dans le sujet qui vient maintenant, c'est Babylone et son jugement. Voilà. Alors, on a peut-être une idée de ce que peut représenter Babylone. Alors, on va le voir par le détail maintenant. Dans l'Apocalypse, il apparaît, et nous l'avons déjà vu ensemble, cinq ennemis de Christ et de son Église. Il y a d'abord le dragon. Il y a la bête qui monte de la mer. Il y a ensuite la bête qui monte de la terre. Il y a les hommes qui portent la marque de la bête, et il y a Babylone. Alors on va en parler, parce que le sujet de Babylone recouvre deux chapitres entièrement, le chapitre 17 et le chapitre 18 également. Le chapitre 17 annonce, ou plutôt dévoile, la nature de cette ville antique, de cette ville que j'ai nommée Babylone, mais qui porte un autre nom, qui est appelée, dans notre texte, la grande prostituée, et son jugement, dont elle va être frappée. Le chapitre 18, dont j'ai parlé il y a un instant, évoque, les effets mondiaux de ce jugement, ce qui va arriver sur la terre en raison de cette Babylone qui va s'effondrer sous le jugement de Dieu. Alors on va prendre notre lecture à partir du verset 1er, chapitre 17, puis un des anges, des sept anges, qui tenait les sept coupes, vint, vous souvenez la fois dernière, on avait parlé des sept coupes, et il m'adressa la parole en disant: « Viens, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Qu'est-ce que cela veut dire? L'ange qui apparaît à Jean commence par donner le vrai nom à Babylone, la grande prostituée. Vous en conviendrez, c'est un terme injurieux. à comparer avec la véritable épouse dont la Bible nous parle, qui est décrite dans Éphésiens chapitre 5 et verset 25, où il est question de l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, qui est l'Église, qui est la véritable Église, l'authentique Église, qui est constituée avec des hommes et des femmes qui se sont repentis de leurs péchés, rappelons-le, convertis à Jésus-Christ et qui est née de nouveau par l'Esprit. Ça, c'est la véritable Église. Et nous allons voir dans tout ce contexte du chapitre 17 une concurrence entre la véritable Église de Jésus-Christ et celle qui veut l'imiter, la fausse, et qui n'est qu'une prostituée. Ce sont des paroles hardies, hein, des paroles audacieuses qui sont données à notre réflexion. Je voudrais rappeler le principe que toute épouse digne de ce nom ne réclame d'autre appui que celui de son mari, parce qu'ils sont unis, tout simplement. Tandis que la femme prostituée dont le chapitre nous parle, cherche des appuis visibles, des appuis étrangers, illicites. Tel est l'état de celle qui est ici présentée comme l'épouse, ou entre parenthèses, si vous voulez une autre présentation, l'Église, mais une Église qui est déchue, qui est infidèle, une Église qui est adultère, voire même, et ça c'est le paroxysme de cette union désavouée adultère, et qui s'appuie sur tout ce que le monde antichrétien représente. Je suis en train de dresser le cadre pour que nous comprenions bien que dans ces deux chapitres, il va y avoir un parallèle à faire en permanence entre ceux qui appartiennent réellement par l'Esprit à Jésus-Christ et ceux qui n'en ont que l'apparence, ceux qui n'en ont que l'extérieur. Alors, nous avons lu ensemble, dans ce premier verset, que cette fausse épouse, cette prostituée, est assise sur les grandes eaux. En langage biblique, on y reconnaîtra aisément notre civilisation. Ce sont des paroles qui sont difficiles. Il faut bien l'avouer, parce que c'est une dénonciation. Où là, maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, si les choses pendant des siècles et des siècles ont été voilées et contenues, maintenant tout est mis à la lumière. Et nous pouvons nous représenter, finalement, les civilisations à travers tous les temps, tous les siècles. Mais notre civilisation, nous qui vivons dans ce que nous connaissons aujourd'hui, à travers tous ces grands empires, à travers notamment cette civilisation dont nous venons directement dans nos pays occidentaux, Rome, l'Empire romain, si vous voulez, mélangé avec le judéo-chrétien. Donc c'est tout un amalgame qui est présenté ici. Laquelle civilisation, en dépit des apparences de christianisme ou à travers des appellations de christianisme, à toutes les marques du paganisme. Et je rappelle que le mot paganisme est en relation avec un état païen, c'est-à-dire ce qui est tout à fait étranger ou contraire à Dieu. Alors les habitants de la terre, nous l'avons lu il y a un instant, ont accueilli ces avances de cette prétendue Église avec beaucoup d'enthousiasme, au point de se griser de son épouvantable immoralité. Et s'il y a quelque chose qui marque tous les temps, à travers tous les temps, et ce qui marque notre époque, c'est le monde de l'immoralité. Ouais. Ou vous le prenez dans un sens ou dans un autre, hein. Que ce soit l'immoralité sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur tout simplement, dans la vie en général. Cette prostituée est grande, nous dit le texte, par l'étendue de son influence, non seulement sur les peuples, mais aussi sur les rois. Écoutez, elle était assise sur les grandes eaux, et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Nous comprenons qu'il y a là quelque chose d'une extrême puissance, parce que la corruption n'atteint pas seulement la généralité du monde, mais ceux qui dirigent le monde, ceux qui sont élevés en dignité et qui pilotent finalement les peuples et les nations, et qui vont donner finalement aux peuples et aux nations eh bien, l'orientation, la direction. Et la direction qu'ils vont donner, parce qu'ils ont le pouvoir, ça sera une direction de tout simplement d'immoralité, de corruption et de tout ce que vous voudrez. Et ce n'est pas pour rien que le verset 18, on ne l'a pas lu, on ne va pas le lire ce soir, parce que ça fera partie du deuxième volet du chapitre 17, mais il nous est dit « Cette grande prostituée a la royauté sur les rois de la terre ». Donc, ça vient d'en haut, dans le monde des hommes. Les nations et les gouvernants, nous dit le livre de l'Apocalypse, vont faire allégeance à cette Babylone, à cette grande prostituée, à cette fausse épouse. Et j'ai bien dit, je l'ai mis entre parenthèses, entendons par là l'Église aussi, la fausse Église. L'Église qui a déchu de sa position. Où on le voit peut-être même dans notre monde, où les grandes sept terres, surtout dans le monde qui se dit chrétien, va faire allégeance à l'Église, ou à une Église en particulier. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails, vous allez de vous-même savoir comment interpréter les choses. Son abomination vient de ce que cette femme corrompue n'est plus une épouse. Elle a rompu le lien et son alliance. Elle s'est livrée au commerce honteux de la prostitution. Ça, c'est quelque chose qui choquera toujours, de toute manière. Telle est devenue l'Église de Christ dans son apostasie. Et je rappelle, et je vais donner la signification du mot apostasie, c'est tout simplement le rejet de la vérité, le rejet de la lumière, le rejet de tout ce qui représente finalement Dieu dans l'authenticité de ce que Dieu nous enseigne et sa parole et tout le reste. Donc vous avez bien compris. Nous voyons que elle a complètement changé de nature, cette Église. Et elle se prétend pourtant l'Église de Christ. Elle se prétend représenter le christianisme, représenter la volonté de Dieu. Et elle ne l'est plus. Elle n'a plus rien à voir avec ça. Donc elle est apostate, rejet de la vérité. Le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 3, décrit les éléments de sa dépravation. Au moyen de ses charmes et de ses attraits, à travers cette compromission habile de la vérité, de la justice, de la moralité, son ingérence de l'Église même, de cette fausse Église, dans le pouvoir politique, dans le pouvoir des nations, dans le pouvoir économique, dans le pouvoir financier, dans tout ce que nous entendons aujourd'hui finalement. Parce que nous sommes en pleine actualité, c'est ça ce qui fait l'intérêt de ce chapitre 17. C'est qu'il y a quand même une référence à l'actualité, à notre temps, notre monde contemporain. Elle a amené les hommes sous des influences idolâtres. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, le Créateur, elle va amener les hommes à adorer des créatures. Elle va amener les hommes à adorer des faux dieux, tels que la richesse, mammon, l'argent et toutes sortes de choses. D'une manière passionnelle, d'une manière folle, irraisonnée. Et nous avons lu ensemble qu'elle va conduire le monde tout en enveloppant finalement eh bien, son discours ou ses sermons de coloration biblique ou évangélique, en utilisant le nom de Jésus, en utilisant le nom de Dieu, en utilisant des histoires de la Bible et toutes sortes de choses. Mais nous avons vu, et je le répète, elle va conduire le monde à l'idolâtrie. Et vous savez que s'il y a un péché qui véritablement déplaît à Dieu, c'est l'idolâtrie. Et nous voyons que, nous l'avons lu, il nous a dit qu'elle s'est enivrée. Et elle a conduit à la débauche. Ce qui est regardé par Dieu comme une faute adultère gravissime. Et l'adultère n'est pas un adultère physique. C'est un adultère spirituel qui va devenir une inimitié contre Dieu. Un rejet, un dégoût de Dieu. En tous les cas, sur le plan pratique. Dans les mots, peut-être pas. Mais sur le plan pratique, on n'a rien à faire de Dieu. Vous savez que nous sommes dans un monde qui se déchristianise de plus en plus. Et on peut le constater. Hein ? Ça, c'est vrai. Où on change les choses de la nature avec des contrefaçons époustouflantes et monstrueuses. Ce que Dieu a créé, eh bien, on est en train de le dénaturer. Un christianisme ayant reçu la pleine révélation de son Sauveur à l'origine, ayant même reçu l'effusion du Saint-Esprit, retourne à la corruption la plus païenne. Alors attention à nous, même dans notre monde évangélique. Attention à nous, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est arrivé déjà dans les siècles, parce que les grandes églises ou les grandes dénominations historiques, au départ, elles buvaient le lait de la parole. Il n'y avait qu'un seul sauveur. Il y avait les principes de la repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit et de tout ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui. Mais attention de ne pas le perdre, parce que des millions et des millions de gens, à travers des fausses doctrines, à travers des faux docteurs, ont été amenés à cette situation de Babylone. Et cette véritable Église s'est dénaturée, s'est déformée, s'est complètement défigurée et est devenue celle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Attention. Retourner à la corruption la plus infâme et la plus païenne. Séduire. Ou encore tout ce qui peut être séduisant, tentant, attirant les hommes loin de Dieu. Cette Babylone, dont je nomme maintenant pseudo-spirituelle, vous savez ce que ça veut dire, pseudo-spirituelle, qui n'a que l'apparente de la spiritualité, n'est plus spirituelle, elle est devenue religieuse. La religion, c'est le domaine de l'âme, la spiritualité, c'est le domaine de l'esprit. Nous sommes appelés à être finalement des hommes et des femmes de l'esprit. Jésus le dira, que les vrais adorateurs, ou les vrais croyants, ou les vrais chrétiens, ce sont ceux qui adorent, qui prient Dieu en esprit et en vérité. Et là, cette église dont nous parlons a complètement, finalement, est complètement, elle a chuté, elle est tombée, et elle est tombée dans le domaine de l'âme. Et l'âme, il n'y a rien de plus humain que l'âme. Ça n'a plus rien à voir avec, finalement, ce que Dieu voulait, veut. Et nous voyons que cette Babylone symbolise la concentration du luxe, du vice caché, du mensonge, l'orgueilleuse fascination du monde, et elle incarne le principe même du péché sous deux formes qui lui sont constantes. La corruption, on l'a lu il y a un instant, le verset 2, ils se sont livrés à la débauche, ça c'est la corruption, et aussi à la violence, le verset 6, on le lira dans un instant, ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. La violence et la corruption, est-ce que notre monde ne ressemble pas à ça? Et quelquefois, cette corruption et cette violence, nous la trouvons bénie par cette Église, fausse épouse du Christ, apostate. Les guerres qui ont été menées au nom de Dieu. Et puis tout le reste. J'aurais prêché ce message il y a 3 siècles. Je finissais sur le bûcher, hein. Dieu merci, nous vivons en démocratie. La position assise, puisque cela nous est présenté dans notre texte, fait image en ce sens qu'elle marque clairement son intention de demeurer telle qu'elle est. Elle ne veut pas changer. Elle est assise, elle est bien, finalement, et bien là, elle a un bon appui. Elle se dit, vous pouvez toujours y aller, moi je ne changerai pas. Je suis assis. Je suis bien assis. Je suis bien installé en quelque sorte, et d'affirmer ainsi son autorité. L'Église déchue entend bien dominer à défaut de toujours faire les choses par l'oppression, comme elle a su le faire pendant des siècles et des siècles, et comme maintenant elle ne peut plus faire par l'oppression, elle va le faire par la séduction. Et c'est pour ça que les temps que nous vivons aujourd'hui sont encore peut-être plus dangereux que tous ceux et celles qui, dans le passé, comme les protestants de la première heure, les huguenots, tous ceux, les vaudois et tous ceux qui ont été persécutés jusqu'au sang, je dis qu'aujourd'hui le danger est encore beaucoup plus grand de déchoir de notre position de chrétien. Avant, eh bien, ces martyrs, hein, donnaient leur vie mais ils ne reniaient pas. Aujourd'hui, que va-t-il rester si le Seigneur tarde de la foi des chrétiens, parce que c'est beaucoup plus subtil. L'ennemi n'est pas en face de nous, il est sous la table et sous la chaise et il essaie de miner, de ruiner, pour que les gens, finalement, ne croient plus en Dieu. C'est ça la grande séduction. enivré, nous dit le texte, du vin de son impudicité. Vous savez aussi bien que moi que quelqu'un qui est ivre est incapable de raisonner. Il perd toute notion de la réalité et ne sait plus ce qu'il fait ni ce qu'il dit. Et même, on s'aperçoit que même en se servant parfois même des paroles de Jésus, de les complètement dénaturer, arriver à séduire les gens. Ça, ce sont les fausses doctrines, c'est le monde des fausses doctrines. Et vous savez ce qu'il y a derrière les fausses doctrines, l'inspirateur. Babylone, la prostituée, a perdu totalement le sens des vraies valeurs spirituelles. Et plus grave, elle induit en erreur ceux qui l'écoutent et surtout ceux qui la suivent. Vous avez vu qu'elle... C'est toujours quelque chose qui nous fait du mal de voir les gens, et je veux respecter la personne, mais de voir les gens comment ils sont parfois... tout empreint de superstition, de fausses croyances, et de ne pas vouloir approfondir leur foi, de ne pas vouloir penser par eux-mêmes leur foi, et même encore en la comparant avec ce qui nous est dit dans l'Écriture. Il y a des gens qui considèrent encore comme la Bible, comme le livre du diable, ou le livre des protestants. Surtout, il ne faut pas aborder ces choses. Mais il faut avoir le courage de penser les choses, de penser sa foi. Et l'adversaire a répondu à tout. En disant, mais tu n'as pas besoin. Moi, je vais te donner ce qu'il faut et tu n'as pas besoin de te tracasser pour ceci et cela. Et les gens, souvent, d'une manière tellement étonnante, se laissent conduire. Ils n'ont aucune assurance. Ils ont peur de la mort. Ils sont tellement fragilisés par toutes les incertitudes de l'existence, de leur propre existence, qu'ils sont prêts à croire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Mais être chrétien, c'est le contraire. C'est penser notre foi. Et c'est de pouvoir comparer et de pouvoir étudier, de pouvoir finalement mesurer les choses avec ce que nous dit Jésus à travers sa parole. Le verset 3, j'y arrive. « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Et on verra la suite. Pour parvenir à comprendre ce qu'est réellement Babylone, il est nécessaire de prendre un certain recul, se transporter au désert, parce que dans le brouhaha et dans toute l'agitation de notre monde, comment peut-on s'en sortir? Il faut prendre du recul. Et c'est ce qui se fait. L'ange emmène Jean dans le désert. C'est un désert virtuel, naturellement. Mais il va apprendre des choses, là, à ce moment-là. Qui ou que découvre-t-on dans le désert? D'abord, ce n'est plus la femme dont vous vous souviendrez du texte, la femme enveloppée de soleil du chapitre 12, qui est l'emblème de ce que nous avons déjà étudié ensemble, d'Israël. Mais là, c'est une autre femme qui est assise sur une bête écarlate, la même décrite dans le chapitre 13 et le verset 1er. Il nous est dit qu'elle monte de la mer. Vous vous souvenez de l'étude du chapitre 13, hein, naturellement, je n'y reviens pas. Elle monte de la mer, représentant sans doute le système mondial, industriel, commercial, politique, artistique, culturel et religieux qui, au moyen de ses pouvoirs de puissance et de richesse, séduit, subjugue les hommes. Et comme la grande prostituée chevauche, faisant corps avec la bête. La confusion et la séduction est telle que l'enfant de Dieu est fortement tenté de se détourner de Dieu. Il faut bien connaître la Bible. Et là, nous verrons la différence. Je vous dirai très prochainement, je vous en parlerai, mais je voudrais quand même vous donner déjà un avant-goût que cette femme dont il est parlé, qui chevauche la bête, est issue de cette mythologie grecque. Cette femme, figurez-vous, vous savez quel nom elle porte, elle s'appelle Europe. C'est curieux. Et elle chevauche un taureau qui va la violer. Vous connaissez un peu la mythologie. Parce que, du temps de Jean, ou du temps de l'apôtre Paul, les religions mythologiques, les religions antiques, étaient pleines de cette connaissance de tous ces mythes, de toutes ces légendes, de tous ces contes, de toutes ces fables. Ah, c'était fabuleux. Aujourd'hui, c'est étranger pour nous. Parce que nous sommes dans un autre contexte, mais à l'époque. Mais on en reparlera de l'histoire d'Europe. Et vous verrez que Europe, vous savez ce que ça veut dire, c'est un continent. c'est le monde occidental, qui est issu, eh bien, tout simplement, du dernier empire qui est nommé par ou entrevu par le prophète Daniel. Alors, on en reparlera parce que j'ai d'autres choses à dire ce soir. On y reviendra prochainement à tout cela. Donc, elle chevauche cette bête qui a l'image d'un taureau. Bon, on verra ça un peu plus tard. Mais faut-il entendre les paroles de Jésus lorsque nous en arrivons là, d'entendre les paroles que Jésus nous dit quand il prie pour nous, quand il prie pour ses disciples, quand il prie pour la véritable Église. Il dit « Mais je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Alors n'attendons pas à ce que nous soyons enlevés, pour l'instant. Nous allons vivre dans le monde. Nous allons vivre dans une atmosphère qui va nous asphyxier de plus en plus sur le plan moral, sur le plan spirituel, dans bien des domaines, nous n'avons pas fini d'être choqués, hein, voire même d'être scandalisés, mais le Seigneur a fait une prière pour chacun d'entre nous, pour les fidèles, pour ceux qui tiennent bon, ceux qui sont intègres. Il a promis « délivre-les du mal ». Alors, c'est à nous d'en faire bon usage de cette parole. Parce que la convoitise de la chair, c'est pour ça que j'ai lu le texte tout à l'heure, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, eh bien, c'est quelque chose qui... l'homme n'est pas indifférent de tout cela, parce que nous vivons dans ce monde. Alors, Jésus nous a prévus, et je crois qu'il faut rester au bénéfice de cette promesse. Christianisme, qui fréquente et qui aime le monde, voilà, c'est ça le grand danger. Mésalliance tragique. Quand on regarde de plus près, on aperçoit plusieurs choses stupéfiantes. Cette femme... Il nous est dit « porte des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, pleine de noms de blasphème, c'est-à-dire des noms impies, des noms outrageants et injurieux. » Alors, la nature nous fait identifier l'inspiration qui est derrière, parce que l'inspiration qui est derrière, elle est satanique et elle est diabolique. Et ça vaut pour cette Babylone, et ça vaut pour cette grande prostituée, et ça vaut pour la fausse église. Je ne m'égare pas en disant ça. Hein. C'est une réalité. Et elle chevauche la bête. Cette grande prostituée en a pris la couleur. Il nous est dit qu'elle est rouge, pourpre et écarlate. Voilà, rouge, écarlate, pourpre, qui, tout à la fois... typifie la couleur du sang, on sait ce que ça veut dire, la couleur emblématique du sang et de la royauté, le pourpre. Le sang est celui qui elle a versé ou a fait verser parce que elle est capable de commanditer le meurtre et le crime pour cacher ou voiler finalement ses mensonges et tout le reste. Et on sait très bien ce que veut dire le bras séculier. D'accord ? En termes religieux, le bras séculier, c'est le bras qui donne la mort au nom de l'Église. C'est terrible. Hein ? Alors que nous savons que la véritable Église, elle a bien entendu le commandement « Tu ne tueras point ». Et le pourpre est le témoignage évident de son goût immodéré pour le faste et la domination. Vous remarquerez, elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Son orgueil d'être une reine, oh, je me trompe, d'être la reine, lui a fait amasser, c'est-à-dire voler, des richesses inouïes. L'apostate trône en souveraine du monde. C'est tragique. Regardez le christianisme, les simples hommes, disciples, apôtres, simples chrétiens qui entouraient Jésus, et ensuite dans le livre des Actes et après, les apôtres, des hommes qui étaient démunis, des hommes qui n'avaient rien de particulier. Leur vraie richesse était dans leur cœur. Et regardez l'Église d'aujourd'hui, l'Église, la fausse Église d'aujourd'hui, dans le faste, dans tout ce qui brille, dans le patrimoine, dans toutes ces basiliques, toutes ces choses qui sont époustouflantes. Je me suis toujours imaginé que si Jésus revenait et passait par le Vatican ou aller faire un tour dans les temples de l'orthodoxie, il serait certainement surpris, parce que lui n'a pas été habitué à cela. Hein. Certainement. Certainement. Donc l'apostat trône en souveraine. Dans Apocalypse chapitre 18, nous le verrons ultérieurement. Il nous est dit « Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. » Tout ça, ça s'appelle de l'arrogance. Et à faire le rapprochement avec l'église de Laodicée dans le chapitre 3 de ce même Apocalypse. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, etc. Arrogance. Le chef-d'œuvre de Satan, c'est de faire que celle qui se nomme l'Église de Christ soit devenue la couronne de gloire du monde. Le monde n'aime pas Christ ni sa parole. Mais par contre, il aime bien la contrefaçon et il aime bien se rassurer le monde en disant « nous avons quand même notre religion ». Voilà. Nous avons notre Babylone à nous. Ça le rassure pour un temps. Alors, de quoi s'occupe-t-elle, cette fausse reine? Il nous est dit qu'elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Comment s'y prend-elle? Alors, on va voir un petit peu la manière dont son pouvoir de séduction et de domination des hommes du monde s'opère. Une coupe en main contenant du poison, qui est son moyen d'action par excellence, l'empoisonnement. Passer maître dans, finalement, eh bien, l'intoxication pour ensuite empoisonner. Nous voyons que dans cette coupe, la composition de cette coupe, c'est les abominations. Vous vous souvenez de Deutéronome chapitre 18, où Dieu prévient Moïse, tu diras au peuple d'Israël de ne pas te livrer à la magie, à l'occultisme et tout le reste. Abomination. Dans cette coupe, il y a des abominations. Il y a des impuretés. Les impuretés, c'est l'idolâtrie, adorer des faux dieux. Et il y a des prostitutions, c'est les mélanges contre nature. La stratégie de l'équivoque, c'est sa force. Le double langage, le double visage. Et voici une autre imitation diabolique, c'est une coupe en or. Il y a coupe, avec de ce que nous avons dit, dont elle est remplie, mais elle est en or. L'or qui fait souvent illusion de valeur et d'authenticité. Hein ? Tout ce qui brille n'est pas d'or, d'accord ? Ça, on le sait. C'est-à-dire tout ce que le monde recherche, use et abuse et utilise pour séduire les enfants de Dieu et les rendre infidèles. Ça semble de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Et qu'est-ce qu'il y a ? Toutes ces littératures et spectacles malsains qui sont livrés aujourd'hui en pâture. Moi, je suis toujours assez perplexe de voir que maintenant les enfants savent des choses, où on leur donne à voir des choses, on les prépare à des choses, on les initie à des choses, on les excite à des choses. Et ce ne sont que des enfants. Devinez le monde de demain. Et on s'étonnera qu'il y a des meurtres, qu'il y a des crimes, comme ce garçon qui a été se rendre au commissariat ce soir. Il était ivre et de regret, et il a massacré, violé, dépouiller une petite fille de 8 ans. Vous savez, hein, ça passe par ce que nous voyons, ça passe par ce que nous entendons, et ça passe par ce que nous vivons. Hein. Et aujourd'hui, quelle nourriture ? Quelle nourriture donne-t-on à la jeunesse ? Quelle nourriture donne-t-on aux hommes ? Des spectacles de violence ? De la toxicité ? Des impuretés ? Mais c'est terrible ! Vous savez pourquoi ça marche ? Parce qu'on se fait de l'argent là-dessus. Et on ne regarde pas aux conséquences. C'est diabolique. Moi, quand je vois que des enfants sont spectateurs de certaines choses, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va leur rester quand ils vont devenir adultes? Ils auront tout vu, tout connu. Ils auront tout perdu. Et c'est orchestré par des gens qui, finalement, se disent bien pensants, hein, se mettant et se drapant peut-être dans le drapeau de la moralité, mais on leur donne quand même. Vous allez me dire, nous sommes aujourd'hui dans une société où on n'a pas le droit d'interdire. Hein. Ça fait mauvais goût, hein, ça passe pas, hein, ça fait mauvais genre. toutes les passions enflammées dont on nourrit les gens, les dépravations, l'affection du beau, et qui est sale. Ça paraît beau à l'extérieur, du luxe. La fascination du pouvoir et de l'argent sont complices. Pour essayer de dire, eh bien voilà, le bonheur, il est dans la richesse. La célébrité, la reconnaissance, la gloire, en un mot, l'association de l'esprit mondain, du plaisir, voilà, c'est le mot. La frénésie de vivre pleinement sa vie. Et si nous n'avons pas tout vécu, eh bien nous avons raté quelque chose. Mais vivre, est-ce que c'est ça? Quand on voit que les gens qui vivent la vie à 150 à l'heure et qui vont vraiment pas très loin après parce qu'ils sont dégoûtés de tout, au point de ne plus pouvoir supporter leur propre existence, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle inspiration? Quelle main il y a derrière pour montrer le chemin? Oui, le chemin de l'enfer, le chemin tout simplement de la mort. Expression énergique de la nature humaine qui s'abandonne à ses désirs mauvais, sans écart, pour ce que Dieu a dit. Parce que si Dieu a dit certaines choses, c'est pas pour nous les interdire en disant « Tu vois, moi je suis Dieu et toi t'es sur la terre et moi je t'interdis ça ». C'est pas un code de la route. C'est tout simplement une préservation. Quand Dieu nous a dit « Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela », c'est pour notre bonheur et notre bien, parce qu'on sait très bien, et on en a les résultats tous les jours autour de nous, des gens qui sont tombés dans la misère, qui sont dépravés, qui ne sont plus que des loques, et qui ne sont plus que des spectres, finalement, d'êtres humains, parce qu'ils ont été vidés de l'intérieur, ils sont vides de l'intérieur, il n'y a plus rien du tout, et ça se voit à l'extérieur, naturellement. C'est terrible. Quelle misère. Quelle misère. Et quand Dieu nous dit, mais voilà, la vie, elle est faite d'équilibre. Elle est faite de choses dont nous pouvons, c'est vrai, avoir accès et consommer, mais il n'y a pas que des choses mauvaises. Mais de pouvoir le vivre, finalement, d'une manière qui soit raisonnée et raisonnable. Mais quand on veut aller jusqu'au bout, quand on veut pousser les choses à l'extrême, mais ce sont les choses qui nous rattrapent et elles vont nous détruire. Trop, c'est trop. Moi, ça me fait penser aux cailles des Hébreux dans le désert. Ils voulaient manger des cailles. Ils ont fait une pantomime à Dieu, pas possible. Seigneur, envoie-nous de la viande. Oh ben, je peux vous dire, quand ils sont descendus, ils n'en voulaient plus. Hein. Je le dis toujours, hein. Les pattes et les oreilles sortaient par de tous les côtés. Hein. Eh oui, mais ça, c'est la convoitise, tout simplement. Ce mal, cet amalgame de choses de la vie qui ne sont pas toutes mauvaises en soi, mais qui le deviennent en transformant le moyen par lequel Dieu, eh bien, nous les donne quand ça devient un but. Si je ne vis que pour l'argent, si je ne vis que pour la sensualité, si je ne vis que pour l'alcool, si je ne vis que pour la drogue, si je ne vis que pour la fête, eh bien vous verrez que ce ne sera pas toujours la fête et le beau rêve se transformant en cauchemar. Il y a une logique derrière et Dieu nous dit « Attention, tu vas te faire du mal. Je suis ton créateur, tu n'es pas là pour te détruire. Je veux te sauver. » Il faut que tout le monde l'entende, hein. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'écoutent ça. La coupe est peut-être en or. Et son contenu est foncièrement mauvais, et finalement il est mortel. C'est une caricature. Voyez le contraste. Quand on imagine cette coupe maudite entre les mains de la grande prostituée, l'enfant de Dieu, lui, c'est-à-dire les uns et les autres que nous sommes, nous pensons à la coupe du Seigneur, nous. C'est exactement la même, enfin, pas la même chose, mais c'est l'inverse, c'est ça ce que je veux dire, hein. La comparaison. Nous pensons à la coupe du Seigneur, et celle-ci est remplie de quoi? Elle est remplie de bénédiction, elle est remplie de délivrance, elle est remplie de l'antidote du poison de l'autre coupe. Et quand nous venons au culte et que nous prenons le repas de Sainte-Cène, nous prenons une coupe de délivrance, de purification, parce que Jésus a pardonné nos péchés, et que nous le croyons, et que nous sommes lavés, et que nous renouvelons notre espérance dans la vie éternelle. Parce que la résurrection et la vie de Jésus est plus forte que la mort, elle est plus forte que le mal et que le péché. Nous pensons à la coupe du Seigneur. Priez pour que nos frères et nos sœurs, qui quelquefois ont oublié qu'il y a le dimanche matin le partage du pain et du vin, reviennent. Ils sont mal en point, excusez-moi. C'est important de prendre la Sainte Cène. C'est important de nous retrouver. On ne vient pas parce qu'on est des petits anges et que nous sommes des super saints. Nous venons parce que nous puisons tout à nouveau dans cette vie impérissable que le Seigneur nous a donnée. Tout à nouveau. Donc la Sainte Cène, c'est quelque chose d'important. Et regardez la contrefaçon que nous sommes en train d'expliquer dans ce chapitre. Paul a vu clairement les choses quand il écrit ces paroles, parce que je tiens quand même à vous les citer, on va prendre le temps quand même de les citer, parce qu'il dira ceci, 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain et que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose et qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Un chrétien est séparé de toutes ces choses abominables. Notre état d'esprit, il est en haut. Il est alimenté par la vérité, par la pureté, par la sainteté, pas par ce qu'il y a dans la coupe de la grande prostituée. Le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et les abominations de la terre. Le mystère révélé est le suivant. Comment l'Église, qui se dit pourtant épouse de Christ, infidèle et adultère, prostituée, je le répète, qui sont des qualificatifs les plus déshonorants, peut, à ce point, changer de nature et se révéler comme la Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La parole de Dieu l'appelle d'une autre manière, c'est le mystère de l'iniquité. Oui, le mystère de l'iniquité. Le miracle de Dieu, c'est de faire passer du mauvais au bon, soit changer le mal en bien. Mais hélas, son contraire est aussi possible. Le meilleur, en se corrompant, peut devenir le pire. Et c'est ce qui s'est passé pour la fausse église. C'est ce qui s'est passé pour Babylone, la grande prostituée. À l'origine de l'église de Jésus-Christ, il y avait les principes, qui sont les principes retenus par les hommes qui sont nés de nouveau aujourd'hui. Dans toute dénomination, hein, on n'a pas le monopole, nous, hein. Mais dans toute dénomination où vraiment il y a ces trois principes, repentance, conversion et nouvelle naissance à Jésus-Christ. Et avec le temps, en s'occupant des affaires du monde, avec la corruption intellectuelle, philosophique, théologique, eh bien les choses sont pénétrées de plus en plus. Et cette Église a été complètement défigurée. Et il n'y a rien de plus catastrophique quand le meilleur devient le pire. C'est affreux. C'est inconcevable. Une église rétrograde, et c'est le mot, et infidèle, ne peut enfanter que des enfants infidèles et rebelles à Dieu. C'est logique. Ça va avec la nature des choses. On ne remerciera jamais assez. Et ça, c'est un privilège dont nous n'avons pas le mérite nous-mêmes, que le Seigneur a été nous chercher dans cette église-là pour nous amener à rentrer dans l'église de Jésus-Christ. Vous savez, je ne m'en prends pas aux hommes, loin de là, parce que la Bible conseille à tout véritable, exhorte tout véritable chrétien d'aimer son semblable. Ce ne sont pas les hommes. Mais là où nous pouvons être courroucés, là où nous pouvons véritablement être vraiment des vrais protestants, c'est contre les doctrines, contre les systèmes, contre toute cette grande mécanique et cette grande machine qui induit les hommes en erreur et qui leur donne pour nourriture du mensonge et la contrefaçon de la vérité de la parole de Dieu. Et en conséquence, si elle enfante des enfants infidèles, en conséquence, je le répète, elle ne peut supporter que d'autres soient fidèles, alors elle les persécute à mort. C'est ce qui nous est dit au verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Les guerres de religion, elles sont venues comment? Pourquoi a-t-on persécuté les véritables chrétiens qui appartenaient à Jésus-Christ, qui voulaient croire qu'en Jésus-Christ, qui adoraient Jésus-Christ, et qui à un moment donné sont sortis de cette église, parce qu'ils se sont aperçus que cette église avait des choses qui étaient véritablement en contradiction flagrante avec les enseignements de notre maître, de notre sauveur et seigneur. Alors, cette église-là, eh bien, elle a dit, il faut les tuer, ils sont gênants. Et c'est ce qui s'est passé, des siècles et des siècles de sang, dans les guerres, terriblement nommées guerres de religion. Il y a eu des milliers et des millions de morts, et il y en a encore, hein, croyez bien. Il y en a encore. Alors il faut chercher peut-être la réponse et la compréhension de ce verset dans la tragique histoire du christianisme. On y trouvera sans peine des Caïn, vous voyez ce que je veux dire ? Qui assassinent Abel, leur frère, et tout cela autour du savoir quelle est la meilleure offrande à faire à Dieu. Parce que c'est une concurrence entre les églises. Moi, j'ai la vérité, je suis toute seule à avoir la vérité, vous comprenez ? Et ça, c'est dramatique. Les schismes, les divisions entre églises, à savoir que celle qui est à côté de moi, eh bien, elle vaut rien. Mais moi, naturellement, j'ai la science infuse et je connais tout. Je suis vraiment le représentant du Seigneur. Eh bien, vous savez qu'une chose pareille, alors que Jésus nous a dit le contraire, aimez-vous les uns les autres et soyez unis. Soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Mais de quoi ça vient, ça ? C'est pas seulement l'intelligence des hommes, c'est qu'il y a une intelligence qui vient d'en haut, une intelligence diabolique et satanique pour la destruction et la mort. Ouais, les Caïn qui tuent les Abel. Et on se pose la question, mais c'est quand même nous qui avons le meilleur. Hein. Quel orgueil. Quelle dérive. Les fruits à l'évidence prouvent que ce n'est pas pour le même Dieu. Eh oui, ce n'est pas pour le même Dieu. C'est la naissance mystérieuse d'une civilisation porteuse de mort qui s'oppose à Dieu et dont on peut affirmer, comme Caïn, où il est dit de lui dans Genèse, chapitre 4 et verset 16, « Puis Caïn, quand il a tué son frère, s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, N-O-D. Or, Nod, écoutez bien, signifie vagabond, en errance, comme la prostitution. » Une prostituée, c'est une femme qui est en errance. Vous voyez la relation qu'il y a entre le premier crime et puis finalement le livre de l'Apocalypse, où il nous a parlé de la grande prostituée ? Vagabondage, papillonnage, butinage, voilà, tout simplement. Telle est la grande Babylone. La conclusion de cette première partie, je la prends au fin du verset 6. « En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. » Qui a les sept têtes et les dix cornes. Il y a de quoi être abasourdi. Moi, je ne sais pas comment vous recevez ce message ce soir, mais quelquefois, dans le commentaire, et quand je suis en train d'étudier le livre de l'Apocalypse, je dis, mais ce n'est pas possible. Abasourdi, parce que le spectacle vu par l'apôtre Jean est inimaginable, et pourtant c'est une réalité. Celle qui prétend porter le nom de Christ, s'unir contre nature avec l'ennemi résolu de son sauveur, c'est l'histoire de la chrétienté apostate. Comment peut-on s'unir avec un système, avec cette Babylone, cette grande prostituée, alors que l'on sait qu'elle est résolument ennemie de Christ ? C'est pas possible. Alors la prochaine fois, on donnera une suite et on aura l'explication quand l'ange dit à Jean, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. Nous étudierons la prochaine fois le verset 8 au verset 18 et on aura encore des choses très étonnantes à découvrir. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. C'est vrai que c'était quand même un sujet assez hard, comme l'on dit, mais on verra la suite et vous verrez que ça révèle encore des choses qui sont époustouflantes. Que Dieu nous bénisse, nous allons simplement terminer en priant maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous sommes au cœur. C'est vrai de la réalité du monde dans lequel nous sommes et comme le monde a toujours été d'une manière ou d'une autre. Oui, Seigneur, parce que nous croyons qu'il y a deux voies. Il y a soit la voie de Caïn, la voie de l'homme déchu, du meurtrier, du criminel, où toute l'histoire de la guerre entre les hommes a commencé sur une histoire d'offrande, une histoire cultuelle, entre l'offrande d'Abel, qui a plu à Dieu, et l'offrande de Caïn, qui a déplu à Dieu. Et le conflit dure depuis des millénaires. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier parce que nous avons peut-être nous-mêmes, à un moment de notre vie dans l'ignorance, suivi une telle voie. Mais un jour, tu es venu dans notre vie. Tu nous as donné ta parole et tu nous as rendu capables de la lire, et non seulement de la lire, mais de la comprendre par ton esprit. Alors là, nous avons vraiment découvert qu'il y avait une grande différence entre la véritable Église de Jésus-Christ. Elle est pure, elle est appelée l'épouse, c'est la fiancée, elle est sans tache. Oui, Seigneur, elle est sainte. Et puis, c'est vrai, celle qui navigue, qui vagabonde, qui erre de par le monde pour faire croire ce qu'il ne faut pas croire, pour enseigner ce qu'il ne faut pas enseigner, pour séduire les hommes, pour endormir les hommes, pour les anesthésier, afin que, véritablement, ils ne voient jamais apparaître la gloire de Jésus-Christ et de son évangile de salut. Seigneur, merci de nous avoir donné, en effet, ce privilège de te connaître, et nous n'avons aucun mérite. C'est tout simplement grâce à ton amour. Et je veux te prier, nous voulons te prier ensemble ce soir, pour tous ces hommes et ces femmes dont nous faisions partie hier, et dont nous partageons encore l'humanité aujourd'hui. Mais Seigneur, envoie-leur ton esprit de révélation pour qu'ils comprennent que le seul, unique sauveur, eh bien c'est Jésus-Christ qui se présente à eux tout simplement pour les inviter à recevoir sa grâce, sa vie par la foi. Merci Seigneur. Amen. Amen.